Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour à tous, on va faire la lecture de deux textes dans notre Bible. C'est un sujet, je crois, qui, c'est vrai, concerne chacun, quel que soit notre âge. C'est un problème très, très humain. Donc, première lecture, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8, verset 16, et verset 29, on passera de l'un à l'autre. Alors voilà, donc je rappelle, Jean chapitre 8, verset 16, la deuxième partie du verset 16. « Car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. » Puis maintenant, le verset 29. « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Voilà, on reviendra à cela un peu plus tard, mais j'aimerais maintenant que nous fassions une autre lecture dans le livre du prophète Ésaïe. Alors, livre du prophète Ésaïe, chapitre 49, et vous y reconnaîtrez un texte familier. Chapitre 49, verset 14. Sion disait « L'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. » Et nous allons lire le verset 21 maintenant. « Et tu diras en ton cœur, qui me les a engendrés? Car j'étais sans enfant, j'étais stérile, j'étais exilé, répudié. Qui les a élevés? J'étais resté seul. Ceci, où étaient-ils ?» Voilà que Dieu nous inspire, nous conduise et nous nourrisse à travers sa parole, cette lecture que nous avons faite ensemble. Et s'il y a un titre qui m'inspire dans ce sujet que nous allons voir toute la journée d'ailleurs, je commence ce matin et cet après-midi je continue. Parce que c'est important et j'ai à cœur de pouvoir étudier avec vous eh bien, ce sujet qui est quand même un sujet difficile, douloureux. C'est celui de la solitude. Et j'ai intitulé tout simplement ce message « Les chemins de solitude ». Et la Bible nous en parle. Quelqu'un a dit, concernant ce problème qui touche à la fois le sentiment, l'émotion, « La solitude est à l'esprit ce que le régime est au corps ». Comprenez que c'est une réalité quand même qui nous apparaît. Mais nous n'allons pas donner finalement eh bien là une explication humaine, psychologique. Nous allons aller beaucoup plus loin, nous allons voir ce que la parole nous demande de comprendre en tout cela. S'il vous plaît. Qui n'a jamais éprouvé ce redoutable sentiment d'être seul? Ça nous est arrivé bien des fois, naturellement. De se sentir seul, d'entendre parfois des gens nous dire « Eh bien, qu'est-ce que je me sens seul ?» D'avoir, selon eh bien, le prophète, comme nous l'avons lu dans Ésaïe, de se sentir abandonné, après avoir été accompagné. Et puis au bout d'un certain temps, lorsque le silence devient de plus en plus oppressant, opprimant, de se sentir oublié des autres, oublié des gens, oublié de nos amis. Mais comment faire correspondre les promesses de Dieu qui délivrent de la solitude, telles que nous l'avons lues, puisque nous avons de belles promesses, il nous est dit ceci, une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle allait ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles quand elle l'oublierait ? Eh bien, moi je ne t'oublierai pas parce que je t'ai gravé sur mes mains. Ça c'est la déclaration de Dieu. Alors comment faire correspondre, c'est vrai, ce que Dieu nous dit dans sa parole ? Parce que ce sont des formidables messages de délivrance et l'état solitaire et pénible, cette sensation d'être délaissé, comme nous l'avons lu au verset 21, quand il est dit ceci, « Je suis resté seul ». Voilà. Ça, c'est un cri de désespoir. « Je suis resté seul ». Il y a trois manières d'envisager la solitude. La première est humaine, parce que nous sommes des hommes. Solitude choisie ou solitude subie. Il y a quand même une grande différence. Et de là, c'est vrai, découle naturellement bien des réponses à cette question. La seconde, c'est que la solitude rend malade. Dans bien des cas, elle rend malade parce qu'elle est accablante. Elle est parfois tellement envahissante, si l'on peut s'exprimer ainsi, que véritablement c'est quelque chose de difficile à vivre. Et puis il y a l'état solitaire, donc dont je parlais tout à l'heure, qui est aussi un troisième aspect de notre réflexion. C'est cette troisième manière d'envisager nous offre la force que Dieu nous confère pour en triompher. Parce que je crois que nous sommes dans un contexte qui est un contexte chrétien. Un contexte chrétien, s'il vous plaît. Un contexte chrétien qui nous apprend, où nous sommes là pour apprendre de Dieu. Alors, nous voyons que Dieu a des réponses à tout cela. J'ajouterai qu'il y a de nombreux solitaires dans l'Église. C'est vrai. Je dirais qu'il y a de nombreuses solitudes parmi le peuple de Dieu, paradoxalement, dans un lieu de rencontre. Et c'est ce qui force peut-être notre réflexion. Parce qu'une église, ça se veut un lieu de communauté, un lieu de rassemblement, on l'appelle assemblée. Ça ne veut pas dire, c'est vrai, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Aucune condition de l'existence ne nous épargne le phénomène ou le ressenti de la solitude, même dans le succès et la réussite. On peut connaître cela. La vie en couple et en famille, c'est une réalité aussi. Les amitiés, les plus nombreuses et les plus diversifiées, on n'y échappe pas. Il y a toujours des heures cruciales où nous sommes vraiment, vraiment tout seuls. Même si nous avons un mari, une épouse, une famille, des amis, etc., etc., il y a des moments dans la vie où vraiment nous sommes tout seuls, comme une île au milieu de l'océan, et souvent, et très souvent dans la tempête, pas en mer calme. Mais même lorsque la mer est calme, quelquefois il y a un ressenti qui est terrible, parce que justement c'est trop calme. Par plusieurs exemples, si vous me le permettez, ce matin, nous allons aller à la découverte de ces différentes facettes de la solitude. L'aspect humain et naturel, comme nous en avons parlé, puisque nous avions souligné la solitude choisie ou subie. Il y a également, en effet, celui de l'accablement, et comment se sortir de ce phénomène. Et la réponse que Dieu donne pour en être victorieux. C'est pour cela que ça méritait une journée de méditation. Enfin, ça méritait une journée de méditation, notre démarche ce matin. Cependant, il faut le dire, parfois l'isolement est bénéfique. Et vous allez voir qu'à travers quelques textes de la Bible, il y a des choses que nous ne pouvons apprendre que dans une certaine forme de solitude. Nous avons des exemples parmi les grands hommes. Nous avons l'exemple ô combien de Jésus, qui partait dans la montagne dès le matin pour être seul. et puis bien d'autres choses que nous allons voir ensemble. Il y a certaines solitudes qui tiennent du tempérament. Il y a des gens qui aiment bien être seuls. La foule, le monde autour de soi, eh bien, les stresse. Et ça les rend malheureux. Mais il y a des tempéraments qui s'y prêtent. Mais au bout d'un certain temps, il faut quand même ouvrir sa porte. Et regarder parce que le soleil brille aussi dehors. Eh oui. Et si quelquefois nous n'avons pas besoin des autres, les autres ont besoin aussi de nous. Il ne faut pas l'oublier. Alors ce sont des aspects. Il y a aussi des mises à l'écart que je qualifierais de momentanées, pour un temps, qui finalement restaurent après l'agitation et la fièvre des activités. Parfois, et bien même dans le corps de Christ, hein, on ne sait pas s'arrêter pour se mettre à l'écart. Un jour, Jésus a pris ses disciples. Ils revenaient, mais tout excités d'une mission formidable. Les démons avaient été chassés, les morts ressuscités. Enfin bon, tout ce que nous pouvons envisager de formidable et d'exaltant. Et Jésus leur a dit, alors il leur a coupé leur élan. Hein. Il leur a dit maintenant, venez à l'écart, dans un lieu particulier, reposez-vous. Donc, ce sont des aspects aussi des choses. Parce que dans ces moments-là, où Dieu nous met à l'écart, dans la solitude, on y puise le calme, la force, le ressourcement. Parce que vous savez quand même, le silence, ça repose. Trop de silence, ça tue. Mais le silence repose et offre le renouveau. Et vous savez pourquoi? Dans le plan de Dieu, dans la stratégie de Dieu pour chacun, c'est parce que ça nous permet de repartir à nouveau. Vous voulez aller jusqu'au bout? Vous voulez aller jusqu'au terme? Vous voulez voir encore Dieu faire des choses, se servir de vous? Eh bien, il y a des moments où il nous met à l'écart. Il faut rester silencieux, solitaire, comme nous dit le livre des Lamentations de Jérémie. Autre approche de la solitude, non choisie, donc imposée, qui est l'incompréhension des autres. Quand vous portez quelque chose dans votre cœur, quand vous avez au fond de vous-même un secret, quelque chose qui tient à cœur, un idéal à réaliser, et que vous en parlez autour de vous et que les gens vous prennent un petit peu pour... ils n'arrivent pas à comprendre. Alors là, on se sent seul. Vous savez que les plus grands dans le monde, peut-être artistique ou de la création de ceci et cela, eh bien, ont été souvent très 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 seuls. Et ils n'étaient pas compris. Avant d'avoir été acclamés par ceux qui les avaient décriés. Mais bon, ils ont puisé là, finalement, l'inspiration qui était nécessaire. Alors si c'est vrai pour eux, à combien plus forte c'est vrai pour les enfants de Dieu, pour les chrétiens. L'incompréhension des autres parce que seuls, nous ne sommes pas compris. Ouais. Personne ne nous comprend dans nos sentiments, dans nos ambitions. Personne qui ne veuille participer à nos espérances. Ça, c'est la détresse des enfants de Dieu qui appartiennent à Jésus et de voir tout le reste de la famille eh bien, leur tourner le dos. Ou tout simplement penser que nous sommes un petit peu des gens bizarres. Personne qui ne partage finalement eh bien, ce qu'il y a au fond de notre cœur, personne qui ne s'associe à nos joies, et pire encore, s'associe à nos peines, malgré la bonne volonté. Ce qui fera dire au psalmiste, « Je suis comme un oiseau solitaire sur la branche ». Quelquefois, on est bien seul, hein, en haut de notre arbre. C'est vrai, hein, sur notre malheureuse branche. Voilà, seul, tout simplement. Alors, tous ces éléments, sentiments, sensations, émotions, nous les retrouvons dans les histoires qui vont suivre. Et il y a des histoires qui nous parlent. Des histoires qui sont là pour nous encourager. Nous avons besoin d'avoir cette sensibilité de cœur par rapport à ceux qui vivent la solitude. Elle est immense dans notre monde. Alors bien sûr, il y a toutes sortes de moyens pour y parvenir à enrayer cette solitude. Mais il y a une réponse. Il y a une vraie réponse, c'est celle du Seigneur. Alors peut-être vous me direz, mais moi je suis chrétien, je suis chrétienne et pourtant je la vis. Il y a une réponse. Il y a des solutions. On va commencer par Jacob. Alors Jacob nous parle quand la solitude préside à la victoire. C'était pas une victoire sur ses ennemis, c'est une victoire sur lui-même. Et ça commence par là, finalement. Alors, dans le livre de la Genèse, vous connaissez l'histoire du torrent de Jacob, chapitre 32, versets 24 et 28. Je vais pas lire le texte parce que vous le connaissez, on en a parlé il y a encore dernièrement. Il est dit que Jacob demeura seul. Et après, il s'est passé une chose terrible pour lui. C'était la nuit, c'était la solitude, c'était l'isolement, parce qu'il avait mis ses camps, ses femmes, son camp, ses biens, ses personnes qui le suivaient, il y en avait plus de 300 et quelques, il les a mis de côté. Et là, il s'est retrouvé seul, et Dieu a permis qu'il se retrouve seul, pour aller plus loin, pour passer le torrent, pour devenir un homme nouveau, pour se convertir, finalement. Solitude permise pour se retrouver face à lui-même, Jacob. Et ça, c'est peut-être des choses que nous n'aimons pas se retrouver, nous retrouver face à nous-mêmes. Seul contre Dieu et seul, finalement, contre soi, pour apprendre à déposer les armes de nos propres contestations et résistance intérieure. Ça, c'était le besoin de Jacob. Et tant qu'il avait du monde, tant qu'il avait des activités, tant qu'il avait du trafic, du commerce, et puis vous savez ce qu'il était, hein, il s'appelle pas Jacob pour rien. Alors, pour l'instant, il se noyait dans toutes sortes de choses. Quand il avait un obstacle, il le fuyait, il partait de droite et de gauche, de Padam Aram à je ne sais quoi, et puis il a voyagé toute sa vie, notre brave Jacob. Et il y a une chose qu'il ne supportait pas, c'était la solitude. Et là, ce jour-là, Dieu lui a dit, écoute, on va parler entre quatre yeux, hein. On va bien discuter entre nous, j'ai des choses à te dire. Ça fait des années que tu me fuis. En me fuyant, tu te fuis toi-même. Mais maintenant, tu vas être seul. Et je vais te parler. Mais ce n'était pas pour le détruire. Vous avez compris, hein? C'était pour le sauver. Le sauver de lui-même. Le sauver de ses illusions, de ses combines, de toutes sortes de choses qu'il composait contre les autres pour pouvoir finalement, eh bien, faire sa vie comme il l'entendait. Combien il est facile, peut-être, d'échapper à nos propres réalités pour se noyer, je dis bien pour se noyer dans la compagnie d'autrui, du brouhaha et de nos multiples occupations. Vous savez, nos maisons, elles sont faites à accueillir, mais nos maisons, elles sont faites aussi quelquefois pour avoir aussi une vie d'intimité. Ne va pas trop souvent chez ton ami de peur qu'il ne te vomisse. Et quelquefois, il y a eu tellement de situations délicates où les chrétiens allaient chez les uns, chez les autres, et puis à un moment donné, ça dépasse, ça déborde, et ça ne va plus. Donc il y a un temps pour tout, mes frères et mes sœurs. Un temps pour aller, un temps pour être avec, et puis un temps aussi pour se retrouver tout seul. Parce que ça, c'est la vie. C'est normal. Et Jacob, lui, avait fait en sorte que tout soit dans une grande densité d'activités, de compagnie, de bruit et tout ce que vous voudrez, comme ça, il échappait à la réalité que Dieu voulait pour lui. Parce que tout cela, ça étouffe le vrai regard que l'on doit avoir sur soi-même. Il y a des moments dans notre vie que nous nous souviendrons toute notre vie, toute notre existence. Et là, on était vraiment face à face, hein. Il n'y a pas d'échappatoire. Il fallait regarder les choses comme elles étaient, tout simplement. Dans cet isolement, Dieu nous dit, comme Nathan à David, « Tu es cet homme-là. » Peut-être qu'il le dit à quelqu'un, hein, ou à quelques-uns, ou quelques-unes. « Tu es cet homme-là, tu es cette femme-là, tu es ce jeune homme-là, cette jeune fille-là. » C'est aussi l'histoire de l'indomptable Saul de Tarse. Vous savez, vous en connaissez, c'était encore un autre genre de tempérament que Jacob. Sur le chemin de Damas, qui fut, nous dit le texte, 3 jours sans voir, ne mangea ni ne but, ses yeux, quoi couverts, ne voyaient rien, et il fut conduit par la main. Lui aussi, hein, il avait une drôle d'équipée avec lui, hein. Il avait des soldats, il avait des amis de sa secte, de son milieu, etc., etc. Et il va passer par une épreuve de solitude. Il va commencer par tomber de son cheval. Épreuve de solitude qui fait passer de la mort à la vie. Et ça, c'est une réalité, hein. Autant pour Jacob, autant pour Saul. Et nous voyons que la leçon est la suivante. C'est que dans cette terrible solitude, que je nommerai justement une crise spirituelle, celui qui y passe a le choix soit de se tourner vers Dieu pour avoir sa compagnie et son réconfort dans ces moments difficiles, et naître de nouveau, puisque ce fut le cas, ou soit s'enfermer et se vautrer dans le désespoir en disant « ben voilà, c'est terminé, c'est fini, il n'y a plus rien à faire ». Les deux, Jacob et Saul de Tarse, en sont sortis victorieux. Mais il fallait qu'ils passent par là. Solitude qui engendre de nouvelles relations et de nouvelles communions. Nous savons que Jacob n'a plus été le même après. Il en a même perdu son nom. De Jacob, il est devenu Israël. Et Israël, c'est quand même l'image de la multitude, hein. Du peuple choisi, du peuple élu. Et puis Saul de Tarse, eh bien, il est devenu Paul, tout simplement. Et il a été capable d'aller vers les nations, lui. Vous ne pouvez pas dire qu'il était seul après. Pas possible. En tous les cas, il avait quelqu'un avec lui au fond de son cœur. Le deuxième texte qui nous montre, beaucoup plus sensible, beaucoup plus douloureux peut-être, c'est l'histoire de Anne. Vous l'avez déjà entendu. Ou les chagrins secrets, ou les chagrins secrets de la solitude. Dans 1 Samuel, chapitre 1er, je ne vais pas le lire, mais il est dit ceci à un moment donné, alors que tous les ans, elle va à cette fête, à Silo, et elle rencontre, normalement, elle est censée de rencontrer avec sa propre famille des centaines et des milliers de personnes. C'est là où elle ne s'est jamais sentie aussi seule. Jour de fête. Vous savez que les jours de fête, c'est quelquefois pas la fête, hein. Ouais, c'est pas toujours la fête. Et là, elle pleure. Elle porte secrètement dans son cœur un immense fardeau qui l'a détruit, on le comprend. Et là, elle dira devant le prophète, hein, ou le sacrificateur qui ne comprend rien à rien. C'est un homme de Dieu, mais il ne comprend pas. Voilà, comme ça. Alors, elle dira ceci. « Je suis une femme qui souffre en son cœur. C'est par l'excès de ma douleur et de mon chagrin que je suis ainsi. » Elle dit des choses terribles. Elle dit des choses qu'il faut dire, qu'il faut avouer, qu'il faut confesser. Voilà une rude école quand on est porteur d'une espérance que personne autour de soi ne peut ni comprendre ni aider. Il y a des choses qui nous isolent comme ça. Elles ne sont pas visibles comme cela, elles ne sont pas visibles extérieurement. Mais nous les portons au fond de notre cœur et elles nous déchirent, seules. On y reviendra à un autre temps, mais je vous avais dit qu'on apporterait un message sur les drames de l'échec du mariage et des divorces. Vous savez, hein, il y a des enfants, il y a des adolescents, il y a des jeunes gens, des jeunes femmes, des jeunes filles, ou des jeunes femmes ou des gens d'un certain âge, qui vivent une solitude et une brisure en raison du divorce de leurs parents, et qui ne s'en remettent très très difficilement, et qui n'ont plus la vision et la perspective de leur propre vie, du sens de l'amour, du sens d'être aimé, et du sens d'aimer aussi les autres. C'est un véritable drame de notre société, et nous avons besoin de réagir. Parce que la parole est là pour nous donner de réagir et de guérir de nos blessures. On a parlé, je crois, mercredi soir, que Dieu nous dit « J'oublierai les anciennes blessures ». Eh bien, le Seigneur va se mettre à l'œuvre pour nous guérir les uns et les autres. Moi, j'en suis convaincu, je ne parle pas pour rien. Enfin, du moins, je le crois. Anne avait d'un côté l'amour de son mari, et un mari qui l'aimait, puisque c'était écrit, et puis elle avait de l'autre côté le mépris de sa rivale. Alors avec ça, qu'est-ce que vous faites, hein ? Oui, et le comble, l'incompréhension de l'homme de Dieu. Elle a réuni c'est tout, la pauvre Anne. C'est vrai, c'est terrible. Elle pouvait dire, mais je suis seule. Seule, seule, seule. Ça devient obsédant. Tous lui refusaient l'élémentaire compassion dans l'affection de sa stérilité. Une femme s'est fait pour avoir des enfants. Elle n'avait pas d'enfants, donc il devait y avoir un problème. Eh ben oui, mais le problème, il n'était pas chez Anne, il était chez les autres aussi. Dans leur attitude, leur regard, leur manière de traiter les choses. Un mari qui ne trouvait que lui dire « je t'aime », mais ce n'était pas forcément... Elle avait besoin de l'entendre. Hein ? Sa rivale qui déployait toutes les méchancetés inimaginables et possibles pour essayer de l'écraser, alors qu'elle, elle avait des enfants, Anne n'en avait pas. Et puis l'homme de Dieu qui dit « bah tu es ivre ». Je peux vous dire que vous trouvez du réconfort avec tout ça, hein, quand vous souffrez. C'est vrai. Le poids de cette souffrance solitaire ne serait qu'avec soi, dans les larmes et dans la prière. Et qui dit prière, notre communion avec le Seigneur. Elle pleurait et ne mangeait pas. nous dit le texte. Elle en est arrivée à, finalement, eh bien, sa vie était arrêtée, sa vie physique. Elle ne trouvait plus de goût. Pourquoi allait-elle vivre? Puisque le but de sa vie, elle en avait fait, c'était donner naissance à un enfant. Heureuses les femmes qui peuvent avoir des enfants. Hein. Parce qu'on voit qu'il y en a d'autres qui pleurent parce qu'elles ne peuvent pas en avoir. Et je voudrais dire quelque chose, quand on voit qu'il y a à peu près 250 000 suppressions d'enfants avant qu'ils naissent, je me dis, mais Seigneur, on n'a pas besoin d'inventer la guerre 14, hein, ça se fait tout seul. Excusez-moi, hein, moi je suis scandalisé par cette situation. Que de pleurs, que de larmes. Alors, elle mangeait et elle pleurait et ne mangeait pas jusqu'au jour où Dieu s'est souvenu, parce que c'est le texte, s'est souvenu d'elle et l'a exaucée. Et cette solitude surmontée a enfanté des Samuel. Puisque vous savez que le mot Samuel, ça veut dire, tout simplement, eh bien, Dieu a exaucé. Il arrive à un moment ou à un autre que nous sortons de nos solitudes. Que nous sortons de la souffrance et de la douleur de nos solitudes. Parce que c'est Dieu qui le fait. Mais quelle école! Que de larmes, que de souffrances. Vous savez, hein, mettons notre confiance dans le Seigneur. Même si on ne comprend pas où il nous conduit, ce qu'il veut, il nous a appelés. Et s'il nous a appelés, ce n'est pas le fait du hasard. Au mieux souffrir, peut-être dans l'attente de certaines choses dans sa présence, que de souffrir en son absence. On est souvent très seul dans nos espoirs, hein. L'isolement. Mais l'isolement façonne l'âme. C'est ce qui s'est passé pour Anne. Troisième aspect des choses, c'est Job. Alors lui, il est seul et il est malade. Au chapitre 19, là je vais lire un petit peu le passage, simplement, brièvement, dans le livre de Job. On va retrouver ça tout de suite. Voilà. Au chapitre 19, et verset 19... Versets 13 à 19, il est dit ceci. Il a éloigné de moi mes frères, et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches, je suis oublié de mes intimes. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne répond pas. Je le supplie de ma bouche et c'est en vain. Mon humeur est à charge à ma femme et ma plainte au fils de mes entrailles. Je suis méprisé même par mes enfants. Si je me lève, je reçois leurs insultes. Ceux que j'avais pour confidents m'ont en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Et puis, etc. Il en parle, hein, de sa solitude, Job. Et en quels termes? Qui se mettra à la place de celui qui va mourir? Parce que c'était ça. Hein. Il avait beaucoup plus de probabilité de mourir que de vivre, hein, Job. Qui se mettra à la place de celui dont le corps brûle de fièvre ou de douleur? Là, on se sent seul. Vous pouvez avoir toute une panoplie de médecins, de soignants, etc., etc. On peut le dire, ce que l'on souffre. On peut peut-être trouver les mots pour l'expliquer. Mais qui le vivra comme celui qui le vit dans ses membres et dans son âme? Parce qu'on ne souffre pas seulement du corps. On souffre aussi, peut-être davantage aussi, dans son âme. Ça, c'est difficile. Solitude des nuits sans sommeil. Solitude du déprimé. Comment exprimer l'angoisse sans être pris pour un fou? Parce que quelquefois, on a des drôles d'idées quand on souffre. Hein. Et comment l'expliquer aux autres? De passer pour un fou, passer pour un comédien. Quelquefois, on a dit, allez, tu te secoues, et puis ceci et cela. Alors, quand vous avez une jambe de cassée, vous vous secouez, oui. Quand vous avez les deux bras brisés, c'est pareil, vous vous secouez. Quand vous êtes atteint par la dépression et profonde, alors sévère, vous vous secouez aussi. Faites attention à ne pas secouer les autres, parce que si vous secouez un peu trop fort les autres, un jour, ça vous arrivera, et vous serez secoué à la mesure que vous aurez secoué. Faisons attention de la charité, de la compassion et de l'amour. Parce qu'on ne règle pas les choses avec des versets bibliques. C'est intéressant. N'a-t-on pas vu parfois certains se détourner pudiquement devant les plaintes d'un souffrant parce qu'on est embarrassé ou parce qu'on est désorienté dans sa présence ou tout simplement impatienté? Parce que quelquefois on ne sait pas quoi faire. Alors, on va voir ce qu'il faut. Si l'on ne sait pas quoi faire, je vous dirais qu'il ne faut rien faire. Si l'on ne sait pas quoi dire, eh bien, vaut mieux rien dire. Il y a une chose que nous pouvons faire. Mais ce qui ne fera jamais de mal, c'est pour le moins d'aimer les personnes. Et il y a mille manières de les aimer et de prier pour elles. Parce qu'à ce moment-là, vous demandez, dans votre insuffisance ou dans votre incompréhension, vous demandez celui qui comprend tout et qui est tout puissant pour aider justement ces personnes. Alors, comblons cette solitude-là, finalement, par le silence ou par des mots, mais toujours dans l'affection et dans l'attention. Il est bien dit, j'étais malade et vous m'avez visité. Et la visite n'est pas faite pour une consultation en règle, hein, de remettre les choses en place. Non, non, écoutez les gens. Écoutez ce qu'ils ont à dire. Écoutez leurs souffrances. Ouais. Mais il faut être prêt, hein, pour ça. Prêt. Prêt dans les deux sens du terme. Encore un autre exemple, c'est l'exemple d'Élie. La solitude d'Élie. Solitude curieuse, parce que c'est une solitude qu'il va connaître après le succès. Vous savez que dans 1 Roi, chapitre 19, je ne lis pas non plus, mais versets 4 et 10, tu peux le passer si tu veux, hein, sur le vidéo. 1 Roi 19, 4 et verset 10, verset 4 et verset 10, il dira ceci, « Je suis resté, moi, seul !» Élie est découragé. Il est découragé à mourir. Ça vous est arrivé, vous, d'être découragé à mourir? Vous êtes toujours là, et je suis toujours là. Le prophète a tellement déployé son zèle pour Dieu qu'il est épuisé spirituellement. Il y a des épuisements spirituels, ça existe, qui nous plongent dans un abîme de solitude. Parce qu'il était poursuivi par Jézabel. Il connaît la dépression et se réfugie dans les solitudes du désert. Et il se dit, dans le désert, je serai tranquille, on ne viendra pas m'embêter. Et c'est pourtant dans le désert qu'il va faire son expérience de dépression, de déprime, dépression spirituelle. Il pouvait se dire, lui aussi, dans sa solitude, vivre, mais pourquoi? Ça vous est jamais arrivé d'avoir envie de mourir? J'ai rencontré encore des gens, plusieurs, cette semaine. Et les enfants de Dieu, oui, je dois le dire, qui m'ont dit quelquefois, j'ai envie de mourir. Ouais. Ça vous choque pas? Non, parce que c'est humain, tout simplement. Mais c'est pas pour ça qu'ils sont morts. Hein. J'ai envie de mourir. Et Élie disait, mais pourquoi vivre? Parce que j'ai tout raté. Et à un moment donné, parfois, eh bien, lorsque nous sommes seuls avec nous-mêmes, nous disons, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai réalisé de ma vie? Il y a des âges critiques hein, dans l'existence. Hein. L'adolescence est un âge critique parce que on va rentrer dans une autre dimension. Hein. Et là, il va falloir construire, et solide. Et puis, il y a des âges intermédiaires, hein, autant pour les hommes que pour les femmes, dans le milieu de la vie. 40, 50 ans. Et puis après, ça sera peut-être au départ à la retraite. Qu'est-ce qu'on va faire? Ceci et cela. Eh oui, mais ça fait partie des choses qui sont comme cela. Et puis, c'est tout. Hein. Alors, Élie s'est battu. Il a vaincu Baal. Et puis toute sa cohorte de faux prophètes, et voilà que le balancier des émotions oscille entre la vie et la mort. Il ne sait plus où il en est rendu. Et puis il n'y a plus personne autour de lui, parce que comme il s'est mis dans un endroit là, caché dans les genêts, hein, il est caché tout simplement, mais il se cache à lui-même quelque part. C'est la décompression brutale. Vous savez, quand on fait des choses, quand on ne veut pas s'arrêter et qu'on nous dit « arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi », à un moment ou un autre, il y a une décompression qui nous arrive. Et là, je peux vous dire que vraiment, on est seul. Hein. On veut les autres, on veut le travail, on veut de l'agitation, on veut du bruit, on passe toutes les barrières, hein, finalement, des règles d'hygiène de la vie, et on voit arriver le mur. Hein. Mais comment arrêter quelqu'un qui fonce à toute vitesse sur le mur? Comment l'arrêter? Alors, il va y avoir certainement un moment ou un autre. La décompression brutale. Pourtant, il avait vu des choses formidables, Élie. La puissance de Dieu qui descend sur le feu, là, sur l'autel. Mais oui. Sa solitude est mêlée de crainte, de dépit, de colère, et pense qu'il a tout perdu et que tous ses efforts sont vains. Mais pourquoi nous faisons des efforts? Pour qui? Pour nous glorifier? Eh bien, vous serez déçus. Pour avoir une réputation, pour avoir un nom, pour avoir, eh bien là, quelqu'un qui parle de vous, qui vous fasse des compliments, vous serez déçus. Vous savez, si nous voulons vraiment nous garder de tout cela, nous devons faire les choses. Vraiment, pas pour nous-mêmes, mais vraiment pour une autre raison, un mobile qui soit beaucoup plus pur et beaucoup plus sain. Ça changera les choses. Alors à ce moment-là, il dira « Je suis resté moi seul ». Et il pensait pertinemment, mais à quoi bon continuer et contribuer à vivre? Et peut-être pensait-il, mais à quoi bon continuer à servir Dieu? C'est alors que Dieu lui révèle un aperçu de son pouvoir et un aperçu de son savoir. 7000 hommes en Israël n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Lui, il pensait avoir réglé le problème. Mais Dieu savait ce qu'il ne savait pas, le prophète. Et après le succès, déprimé, solitaire, épuisé, nous avons tendance à nous voir tout seuls dans notre cas. Combien de fois nous devons intervenir pour dire à des frères et des sœurs qui nous racontent leur histoire, avec laquelle nous compatissons, mais qui nous disent « je suis tout seul ». Et on leur dit « mais non, tu n'es pas tout seul, hein. C'est que tu manques de connaissance de ce qui peut être se passer dans d'autres vies ». Notre expérience, les expériences douloureuses que nous faisons, les tristesses que nous connaissons, mais il y en a d'autres qui les ont vécues avant nous, nous les avons vécues, nous en vivrons d'autres, mais nous ne sommes pas tout seuls. On a tendance à se sentir tout seul lorsque nous vivons des mauvais moments. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le diable, lui, allez, je te mets vraiment à part. Tu es vraiment unique. Et c'est vraiment sur toi que je déclenche les foudres de l'enfer contre toi. Mais il y en a d'autres qui sont passés avant. Et il y en a d'autres qui sont sortis. Très rapidement, encore un autre cas, David. La solitude dans la prière. Le psaume 27, hein, peut-être que je vais le lire celui-ci, psaume 27, versets 9 à 10. « Ne me cache pas ta face. » Ne repousse pas avec colère ton serviteur, tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Et au verset 14, espère en l'Éternel, fortifie-toi, que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel, David. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, espère en l'Éternel. À plusieurs reprises, David s'est trouvé accablé par la solitude, parce qu'il était fugitif. Nous connaissons sa vie. Alors à chaque fois, il s'est tourné vers Dieu et l'a prié. Ce que, certainement, je sais que vous avez fait, également dans votre cas. Il avait peur que Dieu l'abandonne à son sort, parce qu'on l'avait menacé. C'était pas des plaisanteries, d'assassinat. Il avait peur de mourir. Voilà la pensée typique de l'individu insécurisé et solitaire. Peur des autres, peur de vivre, peur de mourir, peur de l'événement brutal, des mauvaises nouvelles que nous apprenons, peur de rester seul, peur d'être rejeté. Ah, le rejet, c'est quelque chose. Parce que le rejet, ça veut dire être mis à l'écart du groupe, de la société, des autres. David attribue à Dieu ses émotions comme en étant l'auteur. Et quelquefois, nous avons accusé Dieu. Nous avons porté des jugements par rapport au Seigneur en disant « Mais Seigneur, c'est toi qui fais cela !» Vous ne croyez pas qu'il y en a un qui s'en amuse aussi? Il se frotte les mains quand il peut mettre le trouble et la pagaille et la panique dans l'âme des enfants de Dieu. Ouais. Et lui, il pensait que c'était Dieu qui en était l'auteur. Parce qu'une chose qu'il faut savoir, c'est que le recroquevillement n'arrange rien. David avait simplement besoin de reprendre confiance en Dieu pour être tranquillisé, apaisé, et que finalement, de là émerge un nouvel horizon d'espoir. Et vous savez, quelquefois, on s'est fait peur. Et qu'une fois que la peur est passée, on se dit « Mais qu'est-ce que j'ai été sot, qu'est-ce que j'ai été bête de m'inquiéter ?» Vous n'êtes pas d'accord? Moi, je dois être tout seul, alors. Être comme ça? Eh oui. On a besoin de reprendre confiance dans le Seigneur. Et ce n'est pas quand on est en bas de l'échelle, hein, de notre évaluation spirituelle que finalement on peut comprendre les choses. Hein. Le Seigneur va nous aider à remonter. Alors, David se répète sans cesse ces mots, « Espère en Dieu ». Eh bien, mes frères et mes sœurs qui peut-être vivez des moments difficiles, je le crois, hein, eh bien vous répétez, mais pas répétez, hein, vous répétez de toute votre foi et de votre cœur, « J'espère en toi, Seigneur ». Je mets ma confiance en toi. C'est toi qui vas me délivrer. C'est toi qui vas pas me laisser dans cette solitude et dans ces choses. Mais quelle voix écoutons-nous? On écoute la voix de nos propres misères intérieures, notre âme qui crie, ou alors on écoute la voix de l'adversaire qui dit « Mais bon, tu t'en sortiras jamais. Tu es perdu, c'est fini, c'est fichu, il n'y a rien à faire. » Espère en Dieu. La solitude favorise, hélas, toutes sortes d'idées négatives qu'il est nécessaire de repousser par la prière si nous ne voulons pas en être submergés. Espère en Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous avons besoin de prendre vraiment pied, position dans notre foi par rapport à la parole de Dieu. Et l'ennemi reculera. Encore une. Toujours David, l'accablement de la solitude. Dans le psaume 142, au verset 1 à 2, il est dit ceci. Lorsqu'il était dans la caverne, donc il a fait cette prière. 1-4. De ma voix je crie à l'Éternel, de ma voix j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Et le verset 8, « Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. » Écoutez, « Tire mon âme de sa prison. » La solitude est une prison. Mais il y a une porte. Et je voudrais vous dire quelque chose. Pour les gens qui ne croient pas, il y a un verrou et il y a des clés. Mais pour les enfants de Dieu, il y a un verrou. Mais il n'y a pas de clé. Elle est ouverte. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire, hein ? Ou je dirais même, peut-être, il n'y a pas de verrou, il n'y a pas de clé. C'est nous-mêmes qui retirons la porte en pensant que, bien sûr, c'est une porte de fer. On la voit, elle est fermée. Mais sachez qu'elle reste en permanence ouverte. Qu'est-ce que cela veut dire ? Tire mon âme de sa prison, la solitude dans la détresse, a un terrible pouvoir. C'est-à-dire, eh bien, de nous emprisonner, nous couper de Dieu et du reste des hommes. Et on est là, et on dit, comme dans le psaume 116, « Qu'est-ce que j'étais bien malheureux ? Qu'est-ce que je suis bien malheureux ?» Il y en a un qui se plaît à entendre cela, c'est l'adversaire. Lui, il se délecte de cela. David, dans la circonstance, était dans la caverne d'En-Gedi, encerclé par l'armée de Saül. Aucune issue pour s'en sortir, puisqu'il y avait l'armée tout autour. L'émotion que produit la conscience d'être vraiment seul affecte à la fois le corps et l'esprit. Et c'est un état qui abaisse nos résistances et notre combativité, notre réactivité jusqu'à la maladie, et suscite un esprit d'oppression qui s'accompagne d'un profond chagrin allant jusqu'à parfois le désespoir. Et il y a parfois ces situations parmi les frères et les sœurs. Ils sont arrivés dans un état de désespoir, de désarroi, et ils ont abaissé leur résistance de combat. Mes frères et sœurs, le Seigneur est votre force, et il est votre joie pour pouvoir remonter et pouvoir sortir de cette porte de prison. Seul et sans issue, il est besoin, dans de tels cas, que le solitaire en détresse soit tiré hors de lui-même, et c'est là où Dieu veut nous guérir, tiré hors de nous-mêmes, parce que la prison, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur, pour lui permettre de recevoir une nouvelle direction. Or, cette nouvelle direction ne peut venir que du ciel. Elle ne vient pas du côté des hommes. Elle ne vient pas du côté de la terre. Elle ne vient pas ni à droite ni à gauche. Elle ne peut venir que du haut. Tout simplement du haut. Parce qu'il n'y a que Dieu qui soit seul capable, finalement, de nous délivrer de nos pensées dévastatrices qui affligent notre âme et notre esprit. « Toi, tu connais mon sentier », nous dit le psalmiste. Toi, tu connais mon sentier, un sentier de salut. Et je termine par Jean-Baptiste. Cet après-midi, on verra Jésus, l'homme de toutes les solitudes. Mais Jean-Baptiste, la solitude du doute. Alors, on va le lire. Matthieu, chapitre 11, que je vous donne quand même la précision. Versets 2 à 3. Écoutez bien, Matthieu, chapitre 11, versets 2, 3. Jean, ayant entendu parler dans sa prison, vous voyez, les prisons, il y en a encore un petit peu de tous les côtés, c'est comme si c'était un petit peu synonyme de solitude, hein. Voilà. Ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles boivent, les boiteux Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Ah ! L'incarcération, hein, c'est de la solitude, c'est peut-être pas le cas aujourd'hui des prisons modernes, parce qu'ils sont entassés par 8, par 10, et imaginez-vous que c'est l'enfer, là, dans un autre sens. Mais là, il est en prison, notre brave Jean-Baptiste. Il n'y a rien de plus affreux que le doute, lorsque nous le laissons dominer sur nous dans son aspect négatif. On a parlé du doute positif, hein, mais du côté négatif. C'est le partage de la pensée et du sentiment, de l'incertitude, le trouble, et là on ne sait plus. Un homme comme Jean-Baptiste qui a reçu les oracles de Dieu, les révélations de Dieu, il a vu Jésus, donc le Messie, venir, lui-même l'a intronisé sous l'ordre du Seigneur. Il l'a vu pendant un certain temps voir des choses extraordinaires, comme nous avons lu, les boiteux, les aveugles, etc., etc. Et à un moment donné, alors qu'il est seul, prisonnier, il n'a pas le choix, mais il est seul dans sa prison, il se prend à réfléchir et il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais plus. Ça vous est arrivé de plus savoir? C'est troublant, hein? On est complètement estourbi. On se dit, mais attention, mais j'ai vécu ça, il y a ceci et cela, et aujourd'hui, on ne sait plus du tout où on en est rendu. On aimerait que quelqu'un vienne nous dire, c'est ceci et c'est cela. À ce moment-là, vraiment, quelquefois, on n'a pas toujours voulu entendre les conseils des autres. Mais là, à ce moment-là, on aimerait tellement que quelqu'un ouvre notre prison, vienne dans notre solitude en disant, mais tu sais, c'est ceci et cela. Mais là, pour Jean-Baptiste, il ne s'est rien passé. Si on lui envoyait quelqu'un, on lui envoyait quelqu'un avec une épée et un plateau, et sa tête est repartie sur le plateau. On aimerait alors, c'est vrai, qu'on entende des choses et entendre des choses qui nous réconfortent. On est tout seul avec sa conscience, avec sa raison qui quelquefois eh bien, bat la campagne, mais personne pour nous aider. C'est bien le cri de ce pauvre paralytique, malade depuis 38 ans, qui dit à Jésus, pour argumenter peut-être une échappatoire, parce que bon, quand Jésus lui dit « Mais veux-tu être guéri ?», il lui dit « Mais je n'ai personne ». Eh bien justement, il avait ce qu'il avait le plus besoin, c'est d'avoir Jésus à ses côtés. Et on sait comment ça s'est terminé tout cela. Jean-Baptiste, le doute, c'est une double prison. Séparé de Christ, séparé des autres. C'est l'instant de la crise, c'est l'instant de vérité en quelque sorte, c'est la grande crise de sa vie. Il a douté du Messie à ce moment-là. Et il dira, mais est-ce bien toi ou devons-nous en attendre un autre? Nous nous posons quelquefois ces questions. Combien nous sommes vulnérables quand les événements nous surprennent à l'improviste? Il y a des choses qui sont bien établies dans notre vie, nous les avons bien réglées, on sait où on va, on sait où on marche, mais il y a des choses qui nous prennent quelquefois par le travers, et là on ne sait plus, parce que ce n'était pas prévu au programme. Est-ce bien la volonté de ce qui m'arrive? Eh bien si ça arrive, croyez que vous êtes toujours dans la main de Dieu et que la volonté de Dieu se fera quand même. Oui? Est-ce bien la volonté ce qui m'arrive? Pourquoi? Dieu permet-il? Comment Dieu va-t-il s'y prendre pour? Mais est-ce que nous sommes des enfants de Dieu? Est-ce que nous lui appartenons ou pas? Rien ne lui échappe. Il est souverain sur toute chose. C'est seul qu'on s'interroge et c'est seul aussi que la réponse nous parvient du ciel, de Dieu. La solitude côtoie les frontières fragiles du doute. Je le dis de cette manière, c'est vrai. Mais comprenons, mais prenons garde de ne pas nous laisser renfermer et devenir notre prison, que cela devienne notre prison définitive. Je termine simplement, à travers cet petit survol, je termine en revenant à le premier texte que nous avons lu. Regardez Jésus, ce qu'il nous dit. Et cet après-midi, moi je vous invite à venir, on verra l'homme de toutes les solitudes qui a triomphé de la solitude pour nous donner nous-mêmes la libération de la solitude, la délivrance de la solitude. Si je reprends Jean, ce que nous avons lu, Jean chapitre 8, verset 16, « Car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. » Alors, j'en tire la conclusion que celui qui peut dire cela, donc Jésus de son Père, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais sa volonté. Et vous savez ce que c'est? Premièrement, de faire la volonté de Dieu, c'est de croire qu'il est présent. Voilà. Qu'il est là. Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Il ne nous a pas dit je suis absent de temps en temps. Je suis absent jusqu'au jour où je reviendrai. Vous cherchez. Il a dit je suis présent. Et la volonté de Dieu, autant que je puisse l'interpréter, on peut lui donner certainement d'autres aspects d'interprétation, mais celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours sa volonté. Il n'y a qu'une chose qui sera déterminante dans nos solitudes les plus cruelles, dans nos perplexités les plus terribles à vivre. Eh bien, la chose que Dieu agréera toujours, c'est notre foi. Sa volonté, c'est de croire à sa présence. Et je rappelle, parce que j'ai été touché par ce petit verset, enfin c'est pas un verset, c'est une citation, Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, il est venu la remplir de sa présence. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen.